Et je pouvais vraiment me perdre dans mes réflexions intimes. Et ça me faisait finalement sentir plus proche de moi-même. Ça nourrissait mon amour de moi.
Habitante lumineuse d'un village creux.
Extrait du documentaire sonore, un documentaire qui explore la solitude sous toutes ses coutures, qu'elles soient intimes, sociales ou politiques. C'est une œuvre chorale bouleversante lancée par le collectif Tout ou Pantoute, intitulée Pour essayer de m'entendre. Pour en discuter, je reçois Laurie Perron, co-directrice du collectif et scénariste et réalisatrice. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Alors avant de commencer, c'est bien Eugénie Jodoin qu'on entend?
Eugénie Jobin.
Jobin, pardon, oui.
La musique, sur un texte d'Annick Arsenault.
Oui, j'allais demander qui était l'autrice du poème. C'est un projet, donc, comment s'est né ce projet de documentaire sonore? Enfin, on va expliquer c'est quoi un documentaire sonore aussi.
Oui, bien sûr. En fait, je co-réalise ce projet, je co-dirige ce projet avec ma collègue Alexandra Turgeon. Depuis plusieurs années, on fait ensemble, on a fait beaucoup du balado, donc un peu plus informel, disons. Puis sur notre dernier projet, on faisait une saison balado, mais on a décidé de creuser vraiment du côté immersif, du côté narratif de l'œuvre, et ça nous a mené à vouloir explorer l'univers du documentaire, donc aller vraiment vers quelque chose de entièrement créatif, sans narration. Donc, c'est vraiment un documentaire comme on pourrait en voir à la télé, sans images. Les images sont créées par les sons. On l'a travaillé de la même façon, avec un scénario, avec ce qu'on voulait faire percevoir. C'est simplement qu'on l'a travaillé au niveau de la conception sonore avec notre conceptrice Sylvaine Arnaud.
Donc, de quoi parle-t-on dans ce documentaire?
On parle de solitude sous plusieurs formes, sous les formes dont ont bien voulu nous parler les gens qui ont répondu à un appel de témoignage qu'on a lancé il y a environ 2 ans. On en parle, on la regarde, la solitude, on cherche pas à en faire un constat, on cherche pas à la dénoncer, à la fuir ou à l'amplifier, la mettre belle. On cherche juste à voir qu'est-ce que ça a fait vivre aux personnes à qui on a parlé à ce moment-là. Puis après, à générer peut-être des discussions entre les personnes qui l'écoutent, puis se rendre compte qu'on la vit toutes, de toute façon. On n'est jamais 100% seul à vivre notre solitude, donc ça vaut la peine de s'en parler aussi. Fait que je pense que c'est un générateur de réflexion et de discussion, j'espère.
Mais comment vous est venue l'idée de parler de la solitude?
En fait, ça, on explorait plusieurs idées de sujets. Mais ce qui nous rejoignait toujours, c'est la solitude que devaient vivre les personnes dans les situations qu'on regardait. Et finalement, on s'est dit, ben cette solitude-là, elle appartient peut-être pas aux personnes elles-mêmes, elle nous appartient à nous. Je pense que nous, on était dans des périodes de nos vies où on se sentait extrêmement seul, et en même temps, dans mon cas, où je recherchais une certaine solitude, parce que, bon, moi, j'ai des enfants, puis des fois, à travers la maternité, on n'a pas beaucoup de temps pour nous, pour respirer, pour exister. Fait que, il y avait ce combo-là de avoir tellement peur de se ramasser complètement seule, puis à la fois en avoir tellement besoin, puis on s'est dit, ben, on n'a pas le choix. Faut le regarder, faut l'explorer, puis ça a donné ce projet-là.
Le regarder sans jugement, parce que pour certaines personnes, hein, la solitude, c'est épouvantable, et pour d'autres, c'est quelque chose dont on a besoin, effectivement.
Exact. Et parfois, pour la même personne, c'est les deux en même temps, oui. Ou les deux à la suite de l'autre dans différentes étapes de nos vies. Là, c'est vraiment... C'est très large et complexe.
Alors, le documentaire donne la parole à 5 femmes au parcours très différent, touchant donc, comme on a dit, la maternité, au vieillissement, à la santé mentale. Comment ces récits individuels parviennent-ils à s'entrelacer? Parce que, je dois le dire, il n'y a pas vraiment de narration là, dans ce documentaire.
Il n'y en a pas du tout. C'était vraiment un travail quand même de longue haleine là, d'aller voir qu'est-ce qui... se rejoignaient dans ce que les personnes disaient, mais aussi essayer de pas non plus répéter, ressasser les mêmes éléments, donc passer d'un élément à l'autre le plus fluidement possible pour en faire un voyage intéressant. Mais comme on cherchait pas à faire une trame narrative qui nous amenait d'un point A à un point B, parce que c'est pas possible avec la solitude, on part peut-être d'un point A, on va peut-être à un point B, mais ça n'empêche pas qu'on peut retourner au A, au C, au D, on se promène. Donc comme on cherchait pas à faire ça, la construction du scénario a été quand même un défi, mais on se rend compte que chaque personne à qui on parle a des idées très éloquentes, des réflexions assez claires sur sa solitude et que ces visions-là se rejoignent sur assez de points pour qu'on soit capable de construire quelque chose de cohérent avec ça.
Je vais parler de Marianne Cazelot, qui est philosophe féministe, qui aborde donc ce qu'elle appelle l'ambiguïté de la solitude, hein, aussi entre injustice sociale et l'émancipation personnelle. Donc, on venait d'en parler aussi. Comment l'approche féministe se déploie-t-elle à travers cette tension?
C'est une excellente question. J'aurais bien aimé que Marianne soit là pour la développer.
Ça va être prise avec la question, Laurie.
mais dans tous les cas, je pense que c'est à peu près dans ce qu'on disait à l'instant, dans ce... C'est sûr qu'au niveau du féminisme, ben on recherche aussi une façon de s'exprimer pleinement, oui. D'exister pleinement, qui peut entrer en contradiction justement avec des éléments comme je parlais de la maternité ou juste la façon dont la société nous met sur le dos quand même plusieurs charges de care et de soins et tout ça qui font en sorte qu'on n'a pas toujours l'espace de penser à nous. Fait qu'il y a ce côté-là, mais il y a aussi tout ce qui peut naître de la solitude créativement en termes de réflexion, en termes même de réflexion très simple sur notre propre vie, qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos besoins, nos désirs. Fait que c'est toujours ce balancier-là qui existe, je pense, en chaque personne, mais qui a, comme je disais, comme on le dit, je pense, dans le documentaire aussi, des implications peut-être spécifiques pour les femmes et les personnes de la diversité sexuelle.
J'aimerais qu'on parle de Lise, parce que c'est vraiment un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Lise qui parle de sa rupture amicale et de sa détresse psychologique.
Lise parle surtout d'échecs amoureux. Lise, qui est notre écrivaine.
Excuse-moi, Lise, oui. Oui, c'est ça.
Mais il n'y a pas de problème.
C'est Naila, je mêle les noms, ça m'arrive. Naila qui parle de sa rupture amicale et psychologique, oui.
oui, Naila nous parle de ça. Naila vit avec des enjeux de santé mentale. Puis c'est vrai que c'est extrêmement difficile parfois de se sentir compris. Là, si je parle de moi-même en même temps un peu, de se sentir compris quand des fois on a de la misère à se comprendre nous-mêmes, de se sentir exister puis perdre des gens dans ce contexte-là, des gens qu'on sent qui sont pas capables d'être là pour nous ou qui n'ont pas les outils, c'est sûr que c'est blessant, c'est difficile, ça fait tellement se sentir seul. Quand on a des gens proches de nous qui ne sont plus capables d'être avec nous, c'est un immense deuil, c'est assez tragique comme situation. Puis elle a trouvé dans cette solitude-là imposée par la situation une façon de justement se découvrir, se reconnaître elle-même. Donc, on est exactement dans cette ambiguïté qu'on disait tantôt, tu sais, la solitude est subie, mais les outils qu'elle y trouve, finalement, l'amènent vraiment ailleurs, puis c'est intéressant de l'entendre parler de ça.
Oui, il y a beaucoup de lumière dans ce témoignage. Malgré le fait que c'est très touchant, j'ai beaucoup aimé, il y avait quand même de la lumière qui venait avec ce témoignage. Mais justement, on va retourner à Lise, parce que j'ai inversé les noms sur ma feuille, excuse-moi. Alors, Lise qui parle de sa rupture amoureuse. Et ça aussi, oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée.
Oui, vraiment, ben oui, parce que des fois, on se fait des idées de ce que sera notre vie. Tu sais, Lise, en plus, est écrivaine, elle conçoit des récits, c'est son travail, c'est sa façon de voir la vie. Elle avait une vision de la famille qui, finalement, ne s'est pas réalisée suite à un échec amoureux. Donc, a vécu la maternité avec ses deux jeunes enfants dans une solitude assez profonde, mais a réalisé aussi énormément de choses seule, ce qui est un super beau récit d'autonomie aussi, puis de des fois de dépassement de soi, mais des fois de découverte de soi, puis à travers ça, ben, se trouver des moments de solitude pour écrire, à travers sa solitude qu'elle n'avait pas choisie. C'est une grande soupe de solitude qui amène un peu de tout, mais c'est magnifique comment elle en parle, puis on a accès à la fin du documentaire à un texte qu'elle a écrit aussi sur le sujet, et c'est en tout cas un de mes moments préférés personnellement de l'œuvre.
C'est vraiment un documentaire qu'on écoute avec des écouteurs et oui. En stéréo. Puis, bon, on met une pause de temps en temps quand on a le temps, quand on a besoin de se remettre. Mais c'est un beau documentaire, tout en douceur, je dois dire. J'aimerais qu'on parle de tout ou pas tout. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais on se définit donc comme un collectif d'art audio queer féministe. En quoi la représentativité territoriale? Parce qu'il y a beaucoup de gens de région là, qui sont là. Et l'attention portée aux communautés rurales et même, je dirais, aux communautés queer influence l'environnement sonore de tout ce projet en général.
Les sons du projet viennent de partout, mais nous, on vient de partout. Alexandra vit de l'Abitibi, je viens du Lac-Saint-Jean, elle habite présentement le bas du fleuve. En grandissant, le manque de représentation des réalités régionales était vraiment omniprésent. Puis quand on a lancé ce projet-là, c'était ultra important pour nous d'avoir des voix de partout. Puis surtout que les discours qui sont souvent universitaires et montréalocentristes, oui. Féministes et de réflexion, ben, ils sont accessibles, puis ils se développent pas juste à Montréal, ils se développent partout. Puis c'était de mettre ça de l'avant, puis d'en discuter honnêtement de toutes les approches distinctives des différentes régions qu'on traverse.
Bien, je vais rappeler à tout le monde que le documentaire audio qui s'appelle Pour essayer de m'entendre est disponible dès maintenant sur le site toutoupantoute.com, là, tout en un seul mot, mais on peut le trouver sur Apple Balado, Spotify et d'autres sites de téléchargement, ainsi que toutes les balados, parce que je vous écoute aussi régulièrement, qu'on peut retrouver donc sur ces plateformes de téléchargement. Laurie Perron, merci beaucoup.
Un grand merci à vous.
Merci.
Bonne journée.